vous un texte que vous connaissez fort bien et qui se trouve dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 4e. Évangile selon Matthieu, chapitre 4 et verset 1er. Nous allons lire à partir du verset 1er, donc, et jusqu'au verset 11. Et vous connaissez ce texte, puisqu'il nous parle eh bien, de quelle façon le Seigneur Jésus a été tenté par le diable dans le désert et comment il a été vainqueur. Alléluia. Mais voulons voir également quelles étaient les raisons de cette tentation, pourquoi le diable s'en est pris au Seigneur et de cette façon-là, voir également l'action de l'Esprit et comprendre toutes ces choses. J'ai intitulé cette méditation « Jésus, le serviteur face à la tentation ». Alors nous lisons d'abord. Voici ce qui nous est dit. « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. » Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, c'est-à-dire Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Amen. Gloire à Dieu. Comme je vous l'ai dit, c'est un texte que eh bien, celles et ceux qui lisent la Bible eh bien, connaissent et qui est frappant par ces moments que le Seigneur traverse eh bien, dans le désert. Nous sommes au début de son ministère terrestre. En réalité, le ministère terrestre du Seigneur n'a pas complètement commencé. Il vient de passer à l'âge de 30 ans par les eaux du baptême. Jean-Baptiste l'a baptisé. Celui-ci a résisté pendant un temps, reconnaissant dans la personne de Jésus le Christ, le Fils de Dieu. Et mais c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, lui dira-t-il. Mais eh bien, Jésus dira, mais laisse faire, accomplissons ce qui est juste. Et il va obéir, il va annoncer au travers de son baptême son obéissance, sa mort, sa résurrection. C'est de ça dont ça parle également, eh bien, le baptême. Et avant que eh bien, son ministère terrestre débute, l'Esprit de Dieu, vous l'avez vu, conduit eh bien, le Seigneur Jésus dans le désert afin que celui-ci soit tenté par le diable et que le Seigneur soit vainqueur sur le diable. Alléluia! Parce que c'est ça qui est important. C'est non seulement que, eh bien, il rencontre cette tentation, mais c'est que dans le secret, alors qu'il n'y a rien d'autre à défendre que sa relation et sa communion avec son Père, son Père céleste, eh bien, le Seigneur soit vainqueur eh bien, sur Satan. Cette victoire sera suivie de beaucoup d'autres. Et nous pensons que parfois nous pouvons vivre des temps de désert, des temps qui sont permis par le Seigneur, des temps qui sont permis par Dieu, pour que nous rencontrions des combats d'ordre personnel qui ne sont pas des combats d'ordre général contre la maladie. On ne voit pas ici le Seigneur se battre contre la maladie, contre la fausse doctrine ou je ne sais quoi, mais ce sont des choses qui touchent sa propre personne, où le diable à chaque fois lui donne des échappatoires, des moyens eh ben de tergiverser avec la volonté de son Père. Et nous voyons que le Seigneur eh bien reste en place et il reste eh bien le vainqueur. À quoi ça servirait de propager la bonne nouvelle si le mal n'était pas vaincu à l'intérieur? À quoi ça servirait de dire, Satan est vaincu si à l'intérieur de nos cœurs, il n'y avait pas une victoire totale sur le péché, sur toutes sortes de pensées. Mais nous voyons ici que le Seigneur est authentique, autant à l'extérieur, dans son ministère public, qu'il l'est à l'intérieur, dans sa vie, dans sa communion personnelle. Alléluia, amen. Et si le Seigneur s'est rendu vainqueur à ce point-là, c'est pour nous partager sa victoire. Parce qu'il y a un enjeu, il y a un enjeu dans cette tentation que le Seigneur subit. Vous avez remarqué qu'à la fin de ce texte, il nous est dit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Et en réalité, le but des tentations de l'adversaire est de disqualifier le Seigneur, de tenter de le disqualifier pour qu'il ne puisse plus servir le plan de son Père Céleste, c'est-à-dire pour notre salut. Et nous croyons également que nous qui sommes des enfants de Dieu, nous sommes appelés à être des serviteurs. Et je voudrais, avant que cette année commence véritablement, le mois de septembre, etc., que nous puissions nous poser la question, Seigneur, est-ce que je te sers? Est-ce que je te suis utile? Avant de dégager peut-être un service pratique dans la maison de Dieu ou peut-être reprendre le flambeau du témoignage dans ta famille, dans ton travail, mais dire, Seigneur, est-ce que j'ai vraiment conscience que tu m'appelles à être utile, à te servir? Et je m'aperçois en réalité que les enfants de Dieu qui sont les plus épanouis, qui sont les plus heureux, ce ne sont pas celles et ceux qui vivent bénédiction sur bénédiction en les gardant pour eux, mais ce sont celles et ceux qui s'offrent entre les mains du Seigneur et qui sont utiles au royaume de Dieu. Ils sont épanouis, ils sont heureux, ils sont joyeux parce que ils sont entre les mains du Seigneur utiles. Alléluia, amen. Ils portent la vie. Et peut-être que avons-nous besoin de comprendre ces choses-là et de dire, Seigneur, y a-t-il pas, moi aussi, dans ma vie, une action de l'ennemi qui voudrait m'empêcher de te servir, m'empêcher d'être, d'entrer dans ce que tu as préparé pour moi? Alors, Seigneur, je vais étudier ta parole. Je veux comprendre comment, on peut entrer dans tes œuvres malgré les pièges de l'ennemi parce que tu l'as déjà vaincu. Alléluia, amen. Vous êtes d'accord avec cela? Amen. Vous croyez que le Seigneur a quelque chose pour vous? La Bible le déclare. Alors on va voir ensemble que notre Seigneur est un serviteur. Nous allons voir qu'il a servi dans l'Esprit. Il a été serviteur bien sûr de Dieu, son Père, et serviteur dans le royaume de Dieu. Tout d'abord, notre Seigneur est serviteur. J'ai été surpris lorsque j'ai lu ce texte de lire au verset 11 ceci. Alors le diable le laissa et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Cette remarque, elle est intéressante dans l'Évangile, ici, de selon Matthieu, de voir des anges qui se mettent à servir le Seigneur. Parce que dans l'Ancien Testament, les anges sont synonymes de puissance. Dans la Bible, lorsqu'on étudie un petit peu ce que font les anges, c'est extraordinaire ce que font les anges. Les anges communiquent des messages de la part de Dieu. Vous vous souvenez, les anges qui parlent à Abraham, etc. Les anges combattent des armées. Je relisais avec le roi Ézéchias dans 2 Chroniques au chapitre 32, un ange qui massacre l'armée des Syriens qui sont là. Les anges voient également la face de Dieu et certains anges sont vraiment dans la présence de Dieu. On a chanté Saint, Saint, Saint et le Seigneur, tiré ça de Ésaïe au chapitre 6. Donc on s'aperçoit que, et ici nous est dit que ces anges se mettent à servir le Seigneur. C'est-à-dire qu'ils comprennent que malgré toute la puissance qu'ils ont, les privilèges qu'ils ont, ils sont en dessous du Seigneur. Parce que malgré tout, aucun ange n'a réussi à vaincre l'adversaire de nos âmes. Aucun ange n'a réussi à vaincre Satan. Aucun ange n'a réussi à vaincre le péché. Et même, vous le savez, même les anges ont été séduits par un autre archange, Lucifer, qui est devenu le diable, Satan, l'adversaire, et ils sont devenus des démons. Mais voici que le Fils de Dieu, lui a vaincu Satan. Alléluia! Amen! Il est le roi, il est le maître, il est le Seigneur. Et l'Écriture nous dit qu'il a dépouillé Satan de son autorité, qu'il a livré les puissances de ténèbres en spectacle, pensant être débarrassé du Christ, du Fils de Dieu pour toujours. Mais Satan a fait une œuvre qui le trompe. À la croix, Jésus a donné sa vie pour nous racheter de nos péchés. Il est mort, mais bien plus, il est ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Il est présent au milieu de nous. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et nous ne voulons pas l'oublier. Il est le maître, il est le roi, il est le seigneur des seigneurs. Amen. Tout genou fléchira. Sur la terre, dans le ciel, ou plutôt, on va faire dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Et tous diront, Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. Alléluia. Amen. Cependant, le Seigneur, eh bien, s'est fait serviteur. Le Seigneur s'est fait serviteur. Et je voudrais vous dire également, et en étudiant la parole de Dieu, on le découvre, c'est que c'est au travers d'une vie de serviteur qu'il s'est rendu vainqueur sur le diable, sur le péché et sur l'esprit du monde. Ce n'est pas en accomplissant ses propres volontés, ce n'est pas en disant « voilà, il me paraît bon que ce soit ainsi ». Non, voyons le Fils de Dieu être toujours dépendant de son Père, de l'action et bien du Saint-Esprit dans sa vie. Ça nous surprend un peu, le Fils dépendant, mais le Père, le Fils, le Saint-Esprit, le Fils et bien, est celui qui obéit au Père, qui fait la volonté de Dieu. Tout cela, bien, c'est la personne de Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, la Trinité. Mais c'est au travers de cette vie et bien, que le Seigneur s'est rendu vainqueur. Et si nous le comprenons, et bien, c'est au travers d'une telle vie que nous aussi, eh bien, nous pouvons être rendus vainqueurs. Ce qui a causé la chute du diable, c'est l'orgueil. Le diable est dans la rébellion. Il a voulu prendre la place de Dieu. Mais ce qui a rendu le Seigneur vainqueur, Jésus, il ne pouvait pas être autrement, c'est parce qu'il a tout accompli. Il s'est rendu obéissant en toutes choses. L'Écriture nous dit qu'il s'est dépouillé de sa gloire et il s'est rendu, il a pris la forme d'un serviteur semblable à un homme et il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, voire même jusqu'à la mort de la croix. Alléluia. Aussi Dieu l'a souverainement élevé, l'a récompensé de toute son œuvre et il est ressuscité assis à la droite de la majesté divine. Alléluia. Amen. Et nous croyons que pour nous aussi, il y a un chemin pour celui, pour celle, eh bien, qui veut voir eh bien, la victoire dans sa vie, celui et celle qui veut voir eh bien, cette gloire. Mais et comme on l'entendait dans un don spirituel, on n'est pas seul, mais aussi, il nous a été dit, mais de servir le Seigneur, de chercher le Seigneur, mais avec amour, avec amour. La motivation dans et on va le voir dans un instant, mais la motivation dans le cœur de notre Seigneur, c'est de faire la volonté de son Père pour nous sauver. Dieu a tant aimé le monde, alléluia. Il n'y a pas d'autre intérêt dans le cœur du Seigneur que de voir eh bien, la gloire de Dieu se manifester au travers d'hommes et de femmes qui sont lavés de leurs péchés, qui sont guéris de leurs maladies, qui sont libérés de la puissance des ténèbres. Alléluia. Le Seigneur t'aime, mon ami. Alléluia. Et c'est pour cela qu'il s'est fait serviteur. Amen. Gloire à Dieu. Alors nous voulons entrer eh bien, dans ces choses et comprendre qu'il y a des pièges eh bien, qui sont tendus et le Saint-Esprit a conduit le Seigneur Jésus dans ce désert afin qu'il combatte ces pièges et qu'il en soit vainqueur avant d'entrer dans ce qui eh bien, était prévu pour lui. Et je répète encore une fois, peut-être que eh bien, certains d'entre nous, mais ça nous arrive d'une façon parfois périodique où le Seigneur permet qu'il y ait des épreuves, des temps de désert afin que nous soyons vainqueurs sur la chair. Voilà. Tu as faim au bout de tant de jours de jeûne et prière, 40 jours, ben, transforme la chair, nourrit ta chair. Voilà. Ou alors l'orgueil. Écoute, quand même, tu es le Fils de Dieu. Révèle-toi au monde. Voilà. Tu as une si belle voix, mais voilà, utilise-la, que tout le monde t'acclame. Voyez, l'orgueil. Hein, voyez ou alors, mais tu vois, mais on est dans un monde là, mais écoute, peut-être quelques compromis, ça permettrait à ce que ton ministère, ton service ait quand même un peu plus d'efficacité. Et on voit que dans le secret, dans le désert, dans l'épreuve, parce que dans le désert, dans l'épreuve, la mort est là et le secours de Dieu aussi apparaît très clair. Pas besoin de la chair, pas besoin du monde. J'ai pas besoin d'autre chose. L'orgueil, à quoi ça sert? Mais j'ai besoin d'une seule chose, Seigneur, c'est de toi. Alléluia, j'ai besoin de toi. Et là, façonné par l'épreuve, façonné par un amour grandissant à l'égard du Seigneur, à l'égard de notre Dieu, notre Seigneur peut nous employer et afin que nous puissions le servir. Vous avez remarqué que dans cette première tentation, c'est mon second point, servir dans l'esprit, le Seigneur va utiliser une déclaration de l'Écriture, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Le piège du diable était de lui voir faire un miracle. Jésus, c'est le Christ, c'est celui qui est rempli du Saint-Esprit. Le Christ, le Fils de Dieu, rempli de l'Esprit, reçoit de la part de son Père, par le Saint-Esprit, les armes qui vont lui permettre de servir. Dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 4 et au verset 18, il nous est dit, le Seigneur m'a... Je vais reprendre pour ne pas écorcher le texte. Il nous est dit ceci au verset 18 du chapitre 4. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer, etc. etc. Et il m'a envoyé pour faire, pour travailler, pour servir. Si tu veux, si tu aspires à être rempli du Saint-Esprit, si le Seigneur t'a rempli du Saint-Esprit, t'a baptisé de son Saint-Esprit, c'est pour que tu sois utile entre les mains de Dieu. C'est pas pour que ce soit comme une espèce de diplôme qui est sur ta carte de santé pentecôtiste, baptisé le temps, d'eau le temps, du Saint-Esprit le temps. Non, le baptême du Saint-Esprit, c'est une puissance que le Seigneur t'accorde pour que tu puisses le servir. Alléluia. Mais le servir, lui, le Seigneur, pas servir à faire du spectacle, parce que c'est ça que le diable, et c'est subtil, c'est ça que le diable entraîne. Voilà. Dis à cette pierre de se transformer en pain et suite à ces jours de jeûne et aussi tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pierres. C'est subtil parce que nous pensons, et d'une certaine manière c'est la réalité, que la vie de l'esprit elle se traduit uniquement par des miracles. Et merci Seigneur pour les miracles. On a parlé avec un frère que parfois, les miracles y sont, mais on ne les voit pas là où on voudrait les voir. Vous voyez ? On ne voit pas là où on voudrait les voir. Je crois que quelqu'un qui se convertit, c'est un miracle. Quelqu'un qui était dur de cœur, impossible à changer, à transformer, et qui tout d'un coup, au travers de circonstances, ouvre son cœur à la grâce de Dieu, il y a un miracle là qui est là. Quand il y a la réconciliation qui rentre, le pardon qui rentre dans une famille, dans un couple, entre parents, enfants, etc., c'est un miracle, alléluia. C'est l'action du Saint-Esprit. Et nous voyons qu'ici, le Seigneur refuse d'accomplir un miracle qui est en plus commandé par le diable. C'est quoi cette histoire? Et parfois, en tant qu'enfant de Dieu, on peut tomber aussi dans des pièges. Allez, montre-moi que tu es un chrétien. Vous savez, des fois, il y a des conversations inutiles, des disputes inutiles qui peuvent avoir lieu au travail, parfois même dans des... dans des conversations de bureau, etc. Ah, toi qui es un chrétien, montre-moi. La dernière fois, nous étions au stand biblique, je crois vous en avoir parlé dans une réunion, et y a un monsieur musulman qui nous observait là, et on est heureux que les musulmans nous observent parce qu'on veut leur parler de Jésus. Mais là, il m'a entraîné sur un terrain glissant, sur le Coran, voilà, le Coran dit ceci, cela, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Alors bon, moi je connais le Coran, je le connais, mais je vais vous faire une confidence, je ne le lis pas tous les jours. Voilà, vous me pardonnerez peut-être. Hein. Voilà, alors, ouais, je vais vous dire que je sais, mais enfin... Alors bon, j'ai dit, écoutez, moi, le Coran, il dit ceci, mais c'est le Coran, mais voilà ce que dit la Bible. Et voilà, à chaque fois, il me ramène sur le Coran, je dis, oui, c'est le Coran, mais le Coran, ce n'est pas la Bible. La Bible, ce n'est pas le Coran. Voilà ce que dit la Bible. Voilà. Et à chaque fois qu'il me parlait, et on est dans une conversation tout à fait amicale, mais moi je citais que la parole de Dieu. Bah, mieux vaut citer ce qu'on connaît. Je connais la Bible, je parle des Écritures, du salut de Jésus. Oui, mais Dieu n'a pas de fils. Oui, mais d'accord, ça c'est ce que dit le Coran. Mais voilà ce que dit la Bible. Jésus est le fils de Dieu. Voilà, etc., etc. Bah, tu peux ne pas être d'accord, mais voilà ce que dit la Bible, etc. Et la Bible, et on a terminé comme ça, et ça s'est séparé dans la paix, et je crois que quand même son cœur a été touché. Alléluia. Et nous croyons eh bien, que nous aussi, nous avons besoin eh bien, d'échapper eh bien, à ces pièges que l'adversaire nous tend. Et Jésus dira, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Je ne vais pas me plonger moi-même dans une histoire où le Seigneur ne m'a rien demandé de faire. Et ici, eh bien, le Seigneur eh bien, est concentré sur eh bien, sa relation avec le Seigneur. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et je vous disais tout à l'heure, mais cette relation, c'est déjà un miracle. Vous savez que chaque jour, vous pouvez parler à Dieu. Mais ce n'est pas un miracle, ça. Alléluia. Chaque jour, Dieu peut vous parler au travers de sa parole. Alléluia. Je me souviens de ce que l'évangéliste Billy Graham disait. Il disait, mais moi, je vis quelque chose d'extraordinaire. Tous les jours, Dieu me parle. Comment ça, Dieu me parle? Oui, j'ouvre sa parole et c'est Dieu qui parle. Et non seulement, je comprends par le Saint-Esprit. Alléluia. Mais gloire à Dieu. Alléluia. Et ça veut dire que, eh bien, dans les déserts, nous pouvons remporter des victoires, même si les miracles que nous espérions, eh bien, n'ont pas lieu. Mais il y a quand même des miracles. Oui, dans le désert, ta chair est crucifiée. Tu t'aperçois que tu es faible, misérable. Mais gloire au Seigneur de se rendre compte de ça. L'inverse serait terrible si tu pensais que tu peux tout accomplir par tes propres forces. Mais le Seigneur, justement, te place dans le désert pour te dire, eh bien, que tu es faible, que sans lui, eh bien, tu ne peux rien. Et il te dit ceci, et moi je suis avec toi pour te libérer. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela que des hommes tels que l'apôtre Paul en prison pourront dire, mais je suis content de l'état où je me trouve. Il était en prison. J'ai entendu aux informations qu'on avait organisé des beaux jeux dans une prison. Il paraît que ça fait scandale. Koh-Lanta en prison. Voilà. Bon, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Bon, l'apôtre Paul, c'est pas ça. Il n'y avait pas de piscine en prison. Hein. Pas de piscine. Dans un cachot à Rome. Je suis content de l'état où je me trouve. Comment ça? Et puis il dira plus loin, j'ai tout reçu, je suis dans l'abondance, il ne me manque de rien. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je puis tout par celui qui me fortifie. Quelle qualité dans sa relation avec le Seigneur. Et on se dit, Seigneur, merci pour ce que je goûte. Mais je m'aperçois qu'il y a encore beaucoup plus à vivre. Alléluia, amen. Il ne me manque rien. J'ai tout pleinement en Jésus-Christ. Et je crois qu'en cela, eh bien, ces propos s'accordent eh bien, avec le don spirituel. Ne dis pas que tu es un petit oiseau tout seul. Le Seigneur est avec toi. Alléluia, même si tu es dans une prison professionnelle ou je ne sais quoi, le Seigneur est là. Alléluia. Et je voudrais également vous faire remarquer que si le Seigneur n'a pas multiplié les pains pour lui-même dans le désert, il les a quand même multipliés pour d'autres. Alléluia, il est le pain de vie. Alors, mon troisième point, c'est de dire ceci, suite à cette deuxième tentation, vous savez, vous avez remarqué que le Seigneur est placé sur le haut du temple, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ton sujet. Voyons ici que le Seigneur n'a qu'un seul objectif, eh bien, c'est de servir son Père céleste. Il va refuser d'entrer, encore une fois, dans le piège du diable. C'est le piège du mysticisme, ça. C'est aller, je te place en haut, montre-moi que tu as la foi, jette-toi, de haut en bas, là. Et les anges, en plus, parce que vous avez remarqué, le diable connaît la Bible. Le diable connaît la Bible. Quelqu'un a dit, c'était un vieux pasteur qui me disait ceci, il y a quelque temps en arrière, il me disait, le diable, il cherche à nous faire tomber. Alors, il y a des tentations, le péché, voilà, etc. Mais il me disait, quand il n'arrive pas à faire tomber quelqu'un, il le pousse. L'excès. Je remarque que les disciples qui suivaient le Seigneur étaient 100% pour Jésus. Mais je les vois pas devenir des fanatiques. Je les vois pas devenir des gens excessifs. Je les vois toujours quand même, suivant le Seigneur, être des gens mesurés. Et même parfois, enfin, en ce qui me concerne, avec peut-être nos caractères, ça me surprend. Quand il y a quelqu'un qui ne suit pas Jésus, qui fait des miracles en son nom, Moi, j'aurais peut-être été comme cela. J'aurais été voir le gars et je lui ai dit, écoute, enfin quand même, arrête de parler de Jésus, de faire des miracles en son nom, alors que le Seigneur, il est là. Peut-être que j'aurais eu, sous le... Enfin, quelqu'un qui fait des miracles au nom de Jésus, à l'époque de Jésus, tandis que Jésus est là, et il ne suit pas Jésus. Enfin, vous ne voyez pas l'anomalie, vous ? Ouais. Et vous dire, mais écoute, Coco, voilà. Eh non, le Seigneur n'est pas comme ça. Et il dira ceci, celui qui n'est pas contre vous est avec vous. Il ne justifie pas cette attitude, et certainement, ce n'est pas bon de faire comme ça. Mais quel équilibre, quelle sagesse, quelle mesure. Et ce n'est pas parce qu'on est rempli du Saint-Esprit qu'on se met à faire tout et n'importe quoi, à entrer dans des situations abracadabrantes. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Et j'ai remarqué que le Seigneur va dire ceci, bon, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu, c'est-à-dire tu ne te mettras pas dans une situation dans laquelle ton Dieu ne t'a pas demandé d'aller, reste dépendant de lui. Et vous avez remarqué qu'il va le mettre, le diable, au sommet du temple. Et parfois, on pense que c'est ça. Pour servir le Seigneur, pour servir le Seigneur, il faut que je prenne la place la plus haute, un peu comme si la vie de l'Église et les services dans l'Église, c'était un petit peu, vous savez, pyramidal. Il faut qu'on atteigne le sommet là, de la pyramide. Mais en préparant ces moments, je me suis aperçu que le Seigneur, oui, il a pris une place, mais l'apôtre Paul parlera de lui comme étant le fondement. Le Seigneur n'est pas tout en haut dans son œuvre. Il est tout en bas. Alors, il a aussi la tête, bien sûr. Mais la parole de Dieu, lorsqu'elle parle de l'Église comme un édifice, elle parle de Jésus comme étant la pierre angulaire, comme étant la fondation. Alors, je ne m'y connais pas trop en bâtiment, mais je crois savoir que la fondation, on ne la voit pas trop. Elle est cachée, elle est même sous la terre. Mais tout tient grâce à ses fondations. Et nous voulons nous souvenir que celui qui est Christ et Seigneur, qui est assis à la droite de la majesté divine, c'est celui qui soutient toutes choses. Alléluia. C'est celui qui s'est humilié, qui s'est abaissé, qui est allé jusqu'à la croix, jusqu'à la croix du calvaire. Et peut-être aussi, et sans nier les miracles, et j'y crois de tout mon cœur, et nous avons besoin de prier, de dire, Seigneur, manifeste ta puissance au travers des guérisons, etc. Mais il me semble qu'un des plus grands miracles, des plus grands témoignages que les frères et sœurs, que les chrétiens que nous sommes, peuvent apporter dans ce monde, tandis qu'il peut y avoir de la tempête, des confinements, le Covid, des guerres, des restrictions, des moments professionnels durs, des temps difficiles en famille. Mais comment ça se fait ? Il tient debout. Vous vous souvenez que de la fois où Pierre, dans Acte 4, se trouve mis en jugement par le Sanhédrin, qui veut le juger en raison d'un miracle qui s'est accompli. Et Pierre répond avec une assurance, il n'y a aucun nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il parle de Christ, etc. Et ils sont surpris de l'assurance de Pierre. Et il nous a dit, ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Si je tiens debout, ce n'est pas parce que je suis fort, mais c'est parce que mes pieds sont sur le rocher. Et le rocher ne tremble pas. Alléluia. Amen. Le rocher ne tremble pas. Et mon frère, ma sœur, combien d'hommes et de femmes ont été bouleversés par le témoignage de frères et de sœurs qui ont été malades, qui ont été peut-être pas guéris instantanément, qui ont vécu des temps difficiles, familial, professionnel. Mais comment tu fais pour te dire ? Comment tu fais pour ne pas prendre de l'exomile ou je ne sais quoi ? Mais je mets mes pieds, ma foi repose sur Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et mon frère, ma sœur, ça c'est une expérience que tu peux vivre également dans le désert. Et nous voyons qu'en raison de cela, des hommes et des femmes ont servi le Maître même dans le désert. Alléluia. Amen. Je vais terminer en prenant ce dernier point, le Seigneur qui est le serviteur dans le royaume. Et le diable transporte le Seigneur et il le place encore sur une montagne très élevée. Il lui montre tous les royaumes et leur gloire. Il dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Et Jésus dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, vous connaissez, nous avons lu la suite. Alors le piège là, de cette dernière tentation, dernière épreuve, elle est, le piège est grossier, se prosterner devant le diable, c'est quand même un peu surprenant, alors que le monde gît sous la puissance du malin pour l'éloigner eh bien, de Dieu et du monde et la servir dans le péché, ainsi que le diable lui propose, eh bien, pour me combattre, allie-toi à moi. Enfin, c'est ridicule comme histoire, hein. Mais c'est le piège des compromis, il faut eh bien, un certain aveuglement, et nous voulons comprendre, bien sûr, nous sommes dans le monde. Bien sûr, dans le monde dans lequel nous sommes, nous avons besoin d'utiliser certains outils pour atteindre notre génération. Et merci Seigneur. Lorsque le confinement a eu lieu, on a créé une chaîne YouTube. Et je crois que, eh bien, elle a fait du bien. Elle a servi au peuple de Dieu, etc. Je voudrais vous donner un petit détail. Quand j'ai dit à mes enfants que nous allions créer une chaîne YouTube, il y a un de mes enfants qui m'a dit « Tu vas devenir YouTubeur ?» Dire, mais on va devenir riche. Et dire, non, pas tout à fait. Voilà. Et après, il continue en disant, bah, dis à la fin des messages, mettez un pouce bleu. Je dis, non, je ne dirais pas ça. Voilà. Voilà, donc, mais je le dis en plaisantant, mais ça peut être un piège. Si je veux évaluer la qualité d'un message au nombre de vues, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire, s'il y a eu 600, 300, 900, 1000, 10 000 vues, que les cœurs ont été vraiment touchés ? Quelqu'un que je connais m'a dit, suite, pendant même le confinement, quelqu'un qui voulait s'approcher du Seigneur, qui était baptisé du reste, qui s'est attaché à un de ses pasteurs, prédicateurs, avec des milliers, dizaines de milliers de vues, mais en réalité, elle s'est placée sous l'emprise de cette personne, c'était sectaire. Tu dépends de ta vie spirituelle, de ce que ce pasteur te dit par mail, te commande, etc. Mais et au bout d'un moment, tu perds la tête. Au lieu d'être heureux et libéré, tu es asservi. Ça vient pas de Dieu, ça. Ça ne vient pas de Dieu. Je remarque que le Seigneur était capable de parler à des foules entières, mais aussi capable de parler à une personne à la fois. Et vous avez peut-être remarqué que les passages les plus profonds que nous avons, les plus détaillés dans les Écritures, l'Évangile selon Jean notamment, ce sont ceux qui se passent avec peu de personnes. Nicodème, la Samaritaine, les disciples eh bien, dans la chambre haute, voilà. Ça nous montre que, quand même, c'est pas au nombre de milliers de vues qu'on juge qu'un message est bon, mais c'est au fruit que ça produit dans notre cœur, à l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Et le Seigneur dira ceci, arrière de moi, Satan. Je fais une petite parenthèse quand même pour dire, il n'y a pas que du mauvais sur Internet, et je crois aussi que Dieu peut donner des ministères à l'Église, et bien qu'ils sont capables de produire et de générer des milliers et des centaines, et gloire à Dieu, des centaines de milliers de vues, pour faire du bien à son peuple, alléluia. Mais ne disons pas que le succès que la terre donne équivaut à ce que, enfin, correspond forcément à une action du Saint-Esprit, alléluia, ayons du discernement. En tout cas, ici, le Seigneur dira ceci, eh bien, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Et nous voyons donc, parce que le Seigneur aime son Père d'une façon entière, intègre, passionnée, eh bien, il ne peut accepter aucun compromis, ne serait-ce qu'à 1%, 0,5%. Et c'est dans les temps de désert qu'on apprend ça. C'est dans les temps de désert qu'on apprend ça. Et peut-être quelqu'un qui passe par un temps de désert ou qui se pose la question ou qui est en train d'en sortir. Mais pourquoi j'ai vécu ça ? Je vous en ai parlé. Dans une période difficile pour moi où j'étais au chômage, etc. Je disais, Seigneur, mon Dieu, mais pourquoi ? Et puis la période, parce qu'avec Dieu, les épreuves, elles durent. Et puis au bout d'un moment, elles s'arrêtent. Parce que le Seigneur nous en fait sortir. Gloire à Dieu. Et dans cette période, j'étais au chômage. J'avais, à l'époque, c'était pas Pôle emploi, mais la NPE. La NPE. Tu as connu la NPE ? Enfin, le nom. Ma carte d'ANPE, je l'ai toujours. C'est des moments, je pense, ça fait partie des moments les plus difficiles de ma vie. Non seulement, j'allais dire financièrement, mais aussi intérieurement, spirituellement, des moments de combat terribles. Mais je ne veux pas les oublier. Je ne veux pas les oublier. Parce que si j'ai tenu debout dans ces moments-là, j'aurais pu finir bas. Mais si j'ai tenu debout, c'est parce que Dieu a été fidèle. Alléluia. Et c'est pour ça que je vous en parle. C'est pour ça que je vous en parle. Et c'est pour ça que, eh bien, ayant vécu ces choses-là, on dit, bah, le monde, oui, bon, il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses, à nous de faire du tri. Mais de toute façon, même le meilleur du monde, ça passe. Ça convoitise aussi. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et Jésus est venu pour bâtir une œuvre qui durera toujours. Matthieu 16, 18, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. L'église, elle est faite pour durer pour l'éternité, pour être eh bien, dans le ciel. Alléluia. Alors, cherchons mes frères et sœurs à servir le Seigneur pour ce qui dure. Merci Seigneur pour eux. Et on prie hein, et on stimule hein, les enfants pour qu'ils puissent faire les meilleures études possibles en fonction de leurs capacités. Voilà. Mais ce qui est plus important que les études, c'est d'avoir fait la paix avec Dieu. C'est d'être s'engager avec Jésus-Christ. Alléluia. À quoi ça servirait au monde de gagner le monde s'il perdait son âme? Pour nous qui voulons voir la gloire de Dieu, c'est ça, alléluia, le plus important. Amen. Alléluia. Alors, nous voulons dire, Seigneur, eh bien, nous voulons te servir de tout notre cœur. Emploie-moi avec eh bien, ces qualités de cœur, remplis du Saint-Esprit, remplis eh bien, de cette onction qui vient d'en haut, non pas pour voir du surnaturel, mais pour communiquer la grâce de Dieu, cherchant eh bien, ce qui dure et de tout mon cœur avec amour. Il y a juste un point que j'ai oublié de nommer dans mes notes, je me suis mélangé, excusez-moi, c'est ma première prédication depuis que je suis au milieu de vous, premier culte. Vous avez remarqué une chose concernant Jésus? Le diable a voulu l'élever à chaque fois, la chair, etc. Et le Seigneur a résisté, il est resté cet homme sur la terre, cet homme qu'on appelle Jésus. Et vous avez remarqué la grande disponibilité de Jésus. Vous avez remarqué que, étant Seigneur, maître de tout, il reste serviteur. Il reste le serviteur, et heureusement qu'il est serviteur, mais accessible. On vient le voir, le Seigneur y fait une visite. Il n'est pas enfermé dans son bureau en disant « mon planning, etc. » « Jairus, ma petite fille, elle est à l'extrémité, il faut que tu viennes. » Tac, il vient. Un centenier qui envoie des amis pour dire je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais voilà, j'ai mon serviteur qui est malade, dis un mot, tac, il s'y rend. On voit le Seigneur disponible. Il y a la belle-mère là qui est couchée. Et je voudrais te dire ceci, le Seigneur, il veut agir dans ta vie. Il est disponible. Il est le roi qui s'est fait serviteur. Et si tu disais ce matin, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu agisses dans ma vie, parce que moi, j'en peux plus. Je ne sais plus comment il faut faire. Et peut-être quelqu'un dire, moi aussi, je veux te servir, Seigneur. Je veux entrer dans tes... Vous voulez bien qu'on prie le Seigneur ? Amen, quelques secondes. Seigneur Jésus, nous te bénissons, te louons. Et je veux te remercier, Seigneur mon Dieu, pour ces moments de culte que nous avons passés. Je crois, Seigneur, que tu nous as fait du bien, tu nous as parlé, tu nous as renouvelés dans notre foi. Et Seigneur, c'est vrai que, mon Dieu, nous comprenons que tu nous appelles à vivre plus et mieux, Seigneur, et à te servir. Seigneur, ce n'est pas, Seigneur, la voie, Seigneur, d'être, Seigneur, bien en vue dans ce monde que tu as prévu pour nous, mais c'est d'être des serviteurs, des servantes et des serviteurs. Et Seigneur, je te prie, toi qui, Seigneur, t'es rendu serviteur pour notre salut, je te prie, Seigneur, afin que nous, Seigneur, que nous entrions dans ces œuvres que tu as préparées pour nous. Je veux me souvenir, Seigneur, de cette femme qui était stérile, Anne, la future maman de Samuel, mais qui t'a offert son enfant avant même que celui-ci naisse, et qui sera appelée une servante du Seigneur. Seigneur, je te prie afin que, Seigneur, pour celui, pour celle qui examine sa vie et qui peut-être se dit, Seigneur, je ne comprends pas, ça n'avance pas, je suis comme au point mort, comme au ralenti. Et si, Seigneur, il y avait un réveil spirituel pour dire, mais Seigneur, en réalité, tu m'appelles à te servir. Seigneur, tu m'appelles à prendre une place. Et si ce matin, nous puissions dire tous ensemble, et peut-être quelqu'un en particulier, puisse dire à son Dieu, « Me voici, Seigneur. Me voici. Sers-toi de moi. Je ne sais pas ce que tu veux faire dans ma vie. Mais Seigneur, je veux avoir cette disponibilité d'esprit. Utilise-moi dans mon foyer. Utilise-moi. » Peut-être que tu t'attends un peu trop au miracle, comme un coup de baguette magique qui viendrait tout changer, alors que le Seigneur veut faire le miracle au travers de ta vie. Il veut t'utiliser comme un serviteur, comme une servante, dans ta famille, dans ton travail. Que tu puisses lui dire là, simplement, et on va terminer. Sers-toi de moi, Seigneur. Sers-toi de moi, Seigneur Jésus. Utilise-moi. Ça rentre Dieu et vous. Je me tais et c'est vous qui lui parlez. Ne doutez pas également, parce que si le Seigneur vous appelle à le servir, c'est qu'il va également vous donner les qualifications dont vous avez besoin. Ce n'est pas sur vos qualités, ne regardez pas vous-même. Mais regardez au Seigneur. Il attend simplement que vous puissiez lui dire oui, tout simplement. Toi la gloire, Seigneur. Jésus. Seigneur, je veux te prier pour tous ces bien-aimés qui ont répondu à ton appel dans le plus secret de leur cœur, manifestant à ton égard cette disponibilité pour te dire, Seigneur, règne en moi, je veux te servir. Alors Seigneur, je suis convaincu, Seigneur, que tu vas déclencher des choses. Et certainement, Seigneur, les faire entrer, Seigneur, dans, Seigneur, des responsabilités, peut-être familiales, qui ont été abandonnées, qui ont été mises de côté. Peut-être un rôle de témoignage dans leur quartier ou dans l'église. Seigneur, dans la prière, Seigneur, dans le témoignage. Seigneur Jésus, je te prie, Seigneur, maintenant, Seigneur, qu'il y ait comme un nouveau départ. Seigneur, dans le nom précieux de Jésus, nous te rendons grâce parce que tu nous rends plus que vainqueurs. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.